Voilà combien c'est bon de nous tenir dans la présence du Seigneur, d'entendre les prières et de dire Amen, prières qui montent vers le trône de la grâce. Voilà, je vous invite à reprendre le texte de base dans Éphésiens 6. On lira 4 versets, Éphésiens 6, verset 10. Voilà, nous continuons à parler du combat spirituel, le véritable combat, le combat de l'esprit. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Amen. Voilà, Dieu, jusqu'à ce jour, nous a fait grâce, et si nous sommes debout, c'est un effet de sa grâce. Il y a bien des fois où le Seigneur nous a protégés, nous a secourus, nous a maintenus debout. Et on peut dire que, oui, si nous avons pu surmonter les épreuves, les difficultés, dans les années qui se sont écoulées, c'est un effet de la grâce de Dieu. Ce n'est pas par nos propres forces naturelles ou nos mérites, mais c'est un effet de la grâce du Seigneur. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous puissions progresser, que nous puissions aller plus loin, que nous puissions grandir, arriver à une maturité et de ce fait, eh bien, entrer dans le combat qui va faire reculer les ténèbres. Nous voyons qu'il y a des situations bloquées. Il y a des situations où ça ne bouge pas depuis des années. Il y a aussi des personnes autour de nous qui sont comme aveugles et celui qui les a aveuglés, c'est le diable. La parole nous le dit. Nous voyons qu'il y a des situations qui ont besoin eh bien, d'une intervention particulière. Et si Dieu nous a fait grâce dans notre propre vie, eh bien, il nous appelle aussi à marcher selon la parole de Dieu, selon ce qu'il nous dit dans sa parole. En tant que disciple de Jésus, eh bien sûr, si nous avons cette communion avec Christ, si l'Esprit de Dieu agit en nous, eh bien, nous percevons quelque chose du combat spirituel. Nous percevons, nous arrivons à percevoir quelque chose. Mais Dieu veut nous conduire encore plus loin. Nous comprenons un petit peu l'intensité. D'ailleurs, dans ces quatre versets, nous voyons, ils sont très explicites, nous voyons l'intensité de ce combat. Nous voyons ce qu'il y a à notre disposition aussi, de la part du Seigneur. Nous voyons aussi quels sont nos ennemis, et ce n'est pas des moindres. Voyons qu'ils sont invisibles, mais agissants. Voyons qu'ils sont capables de faire des ravages, et nous voyons des ravages autour de nous. Il faut être honnête. Bien sûr, nous pouvons chanter, nous sommes victorieux, il y a ceci, il y a cela, mais entre le chant et la réalité dans la vie de tous les jours, on peut dire que le diable fait des ravages. Enfin, moi je le constate, je le vois, il y a des situations, certains sont tenus, donc il y a besoin vraiment d'aller plus loin. D'ailleurs, comme notre frère l'a dit ce week-end, et je suis entièrement d'accord, bien sûr, il nous faut aller plus loin, expérimenter des choses que nous n'avons pas encore expérimentées et que Dieu veut. Il veut nous amener dans des grandes victoires. Mais il y a de grands combats. Alors le dilemme, et c'est toujours, voilà, Christ a remporté la victoire, et pourquoi il nous faut combattre? Mais c'est ainsi, d'une manière, voilà, le Seigneur nous a acquis cette victoire. Mais tant que nous sommes sur la terre, nous devons combattre et persévérer jusqu'à la fin pour être sauvés. L'apôtre qui parle de ce combat l'a mené tout au long de sa vie et de son ministère. Et nous entrevoyons cette intensité par plusieurs exemples dans la parole de Dieu, et c'est Paul qui en parle. Et quand il parle de ce combat, vous allez me dire, à juste raison, mais on n'est pas tous appelés à mener le même combat que l'apôtre Paul. Je vous le concède, c'est sûr. On n'est pas tous appelés. D'ailleurs, quand je vois tout ce qu'il a soutenu comme combat, je me dis, mais même pas une minute, je tiens. Mais nous sommes appelés à mener le combat auquel Dieu nous appelle, les uns et les autres. Même si ce n'est pas le combat de l'apôtre Paul, eh bien, on entrevoit quand même l'intensité. Et quand dans ces versets, il est dit « tenez ferme, avec toute sa force, avec toutes les armes de Dieu, avec… » Il y a quelque chose. Ce n'est pas juste la prière du quotidien. Nous sommes appelés à prier, mais… C'est juste pas suffisant, quoi. Juste de prier pour la journée. Le Seigneur nous appelle, bien sûr, à entrer dans cette vie. Par exemple, dans Colossiens 2:1, Paul dit « Je veux que vous sachiez ». Voilà, il faut que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux de Laodicée. Pour qu'une âme passe des ténèbres à la lumière, il y a vraiment un combat. Pour qu'une âme vienne à l'Église et adhère, ça, il n'y a pas besoin de combat. Mais pour qu'une âme passe des ténèbres à la lumière, soit régénérée, naisse de nouveau, c'est un grand combat. Alors je ne veux pas prier simplement pour que des gens viennent et soient contents, soient bien au milieu de nous et adhèrent. Non, ce n'est pas du tout. Nous prions pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Et comme le dit Dieu à Paul, il lui dit « du royaume de Satan au royaume de son fils bien-aimé ». Là, il nous faut un combat, frères et sœurs. L'adhésion, il n'y a aucun combat. Aucun combat. Si nous donnons ce qu'il faut, les gens vont être bien, ils vont être contents, ils vont adhérer, il y a une bonne ambiance. Mais pour que quelqu'un, un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille, passe des ténèbres à la lumière, c'est un véritable combat. Et Paul le dit, je veux que vous le sachiez, je mène un grand combat pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée. Le diable se déguise en ange de lumière. Ça ne fait rien au diable que quelqu'un arrive dans une église, mais se fasse baptiser. S'il n'est pas né de nouveau, il a gagné. Il a gagné. Mais Jésus n'est pas mort pour que des gens adhèrent. Et c'est sûr que ça nous fait mal au cœur, mais nous en avons vu, et ça fait mal au cœur. Moi, je prie pour qu'il y ait de réelles conversions, des nouvelles naissances, régénération. Quelqu'un qui vivra après avec le Saint-Esprit et qui ne sera pas vaincu partout et tout le temps par le diable. Mais quand nous avons l'Esprit de Dieu, quand nous sommes nés de nouveau, eh bien le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité, comme nous l'avons entendu. Le Saint-Esprit nous conduit dans ce combat, on ne se laisse plus faire. On n'est plus des marionnettes, mais on est des disciples de Jésus et on peut se battre et résister et remporter des victoires avec la grâce et le secours de Dieu. Paul dira aussi dans les Galates, un peu ce que j'exprime là, Galates 4, 19, « Mes enfants, pour qui j'éprouve à nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Moi, je ne connais pas les douleurs de l'enfantement, mais enfin, nos sœurs, vous devez comprendre ce que c'est. Voilà comment Paul exprime. Il dit « c'est tellement dur, j'éprouve ça au plus profond de moi. » Vous voyez, les conversions, ce n'est pas pareil. Hein, et là, ils voyaient les chrétiens s'éloigner. Ils avaient commencé par l'esprit et ils continuaient par la chair. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Sur ce terrain, on ne peut rien dire. Quand c'est la chair qui parle, quand c'est des combats charnels, quand c'est des discussions d'hommes, quand c'est des positions, des vues, on ne peut pas. on ne peut rien faire. Mais Dieu veut nous conduire par l'Esprit. Nous devons vivre par l'Esprit et entrer dans ce combat spirituel. Paul dira aussi, bien sûr, lui, ce qu'il a vécu, mais bon, on ne va pas en lire beaucoup, mais dans Actes au chapitre 20, verset 23, « Seulement de ville en ville, l'Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. » Des liens et des tribulations. Est-ce qu'il a eu peur d'y aller ? Mais non, les chrétiens ont dit « Mais non, n'y va pas !» Et ils ont pleuré, ils ont dit « Mais vous me fendez le cœur, vous me faites pleurer pour... Mais non, je suis prêt à aller non seulement à Jérusalem, mais je suis prêt à mourir pour le Christ, pour l'œuvre de Dieu. » Je ne veux pas m'entretenir longtemps du combat de Jésus dans le jardin de Gethsémané, mais quand nous voyons l'intensité du combat, on se dit « Mais il y a quelque chose qui nous échappe à nous. » Il y a quelque chose qui nous échappe. Nous, on se fixe, voilà, la vie chrétienne, je prie, je lis la Bible, voilà. Mais non, le Seigneur veut nous amener dans cette vie, dans ce fleuve, dans cette vie de l'Esprit, et nous amener. Il n'y a pas de technique dans le combat spirituel. Vous voyez, il y a des livres qui sortent, ceci, vous allez jeûner 10 jours, vous allez... il y en a, ils prient, entre guillemets, ils ne prient pas, ils vont jeûner 10 jours. Mais c'est de la folie, voilà, vous allez remporter si vous faites ceci, cela. Il n'y a pas de technique dans le combat spirituel. C'est Dieu qui nous conduit par son esprit. C'est tout. Il n'y a pas de technique. On ne dit pas, voilà, je vais vite mettre toute l'armure du soldat, je vais mettre cette armure et je vais combattre maintenant. Voilà, de 9h à 10h, je vais combattre. C'est pas ça du tout. Si on ne marche pas par l'esprit, on ne vit pas par l'esprit, on ne combattra jamais le combat spirituel. Jamais. Ce sera toujours la prière, bien sûr, la prière, voilà, et la lecture de la parole. On prie peut-être un peu plus de temps en temps, mais ce n'est pas le combat spirituel. Dans la prière elle-même, il y a quand même différentes choses. Il y a la prière, il y a la louange, mais il y a aussi l'intercession, la supplication. C'est des domaines qui sont un petit peu inconnus, là. La prière, la louange, l'adoration, oui, on connaît, mais la supplication. Et Dieu dira, dans les derniers temps, je répandrai sur mon peuple un esprit de grâce et de supplication. C'est l'esprit qui nous amène à mener ce combat, sinon on n'est pas du tout capable. Mais qui est suffisant quand on voit les ennemis qui sont là, dans ce texte ? C'est pas du mysticisme, c'est réel, c'est écrit. Quand on voit les ennemis, les dominations, les puissances, mais c'est, ça nous dépasse, ça. Mais l'Esprit de Dieu veut nous amener à faire reculer, à faire lâcher ces choses-là. Moi, j'y crois. Hein. Je crois que c'est possible. Parce que Dieu nous le dit. Je crois que c'est possible que Dieu veut nous amener à une maturité plus grande. Oui, le Seigneur veut nous y amener. La guerre spirituelle est réelle, invisible, mais elle est réelle. Et donc Jésus, dans le jardin de Gethsémané, des grumeaux de sang ont coulé. Mais vous savez l'intensité qu'il y avait là ? Des grumeaux de sang qui ont coulé. Quel combat, quelle intensité. Un ange du Seigneur est venu pour secourir Jésus. Tellement c'était intense. Et vous savez, le diable est cruel. Il veut détruire tout ce qui vient de Dieu. Les couples, les enfants. Il veut détruire. Il n'a pas réussi avec Jésus. Mais il veut s'en prendre à tous ceux qui appartiennent à Jésus. Et il nous faut bien comprendre les choses et puis demander à la grâce de Dieu qui nous conduise sur ce rocher que nous ne pouvons pas atteindre. Et Dieu va le faire parce que son esprit est tout puissant pour le faire et pour nous y amener jour après jour, nous amener dans ce combat, dans cette maturité. Et nous avons vu dans l'Épître aux Éphésiens, donc dans les premiers chapitres, il y a un cheminement, il y a une progression. Le chapitre 6, la fin de ce chapitre 6, c'est comme, voilà, la maturité, on arrive à un sommet là, mais c'est une progression. Et le verset clé, c'est Éphésiens 5:18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est-à-dire de l'état d'esprit de ce monde qui s'étourdit, de l'état d'esprit de ce monde qui se distrait à outrance, qui regarde, il y a des images, il y a de tout, et notre esprit, il est complètement distrait. Ne vous enivrez pas du vin de ce monde, c'est moi qui le dis, de ce monde, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Soyez au contraire tous les jours en train d'être remplis du Saint-Esprit. Et ensuite, nous voyons que les relations, c'est bon, soumettez-vous les uns aux autres, entretenez-vous par des hymnes, des psaumes, des cantiques spirituels. Après, il y a la relation époux-épouse. Vous savez, c'est très, très important. Très, très important. L'Esprit de Dieu nous amène à avoir une bonne relation époux-épouse. De cela dépend beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Pierre en parle, ce n'est pas le sujet ce soir, mais c'est très, très important. Pierre dit même que de là va l'exaucement de nos prières. Alors je crois que si là déjà, les couples se placent devant Dieu et demandent la grâce que l'Esprit de Dieu anime nos cœurs et qu'il y ait de l'amour, du respect, soumission, etc. dans nos vies, qu'il y ait une harmonie, qu'il y ait quelque chose dans la vie de couple. Il y aurait de grandes victoires de remporter. Je le dis, et sur les enfants, et dans l'Église. Je me trompe si je dis qu'il y a... Ça va pas trop dans certains couples ? Est-ce que je me trompe ? Je vise personne, je ne veux pas juger, mais voilà, c'est la cible du diable. Et Dieu, c'est le joyau de Dieu. Le couple et la famille, c'est le joyau de Dieu. Vous comprenez pourquoi c'est attaqué comme ça ? Et vous comprenez que si on n'a pas une vie conduite par l'esprit, eh bien le diable tire à boulet rouge. Tire à boulet rouge. Mais moi j'ai de l'espérance et je dis non, il ne vaincra pas. Les couples seront restaurés parce que l'Esprit de Dieu va les amener. Au lieu de se disputer l'un l'autre, plions les genoux et intercédons au trône de la grâce. Supplions Dieu d'intervenir. Quelqu'un peut me dire, mais ça fait des années qu'on vit comme ça, maintenant comment on va ? Dieu peut. Nous ne pouvons pas, mais Dieu peut le faire. Il nous faut cette foi véritable. Comment nous voulons vivre le combat de la foi si nous disputons sous le même foyer, dans la même maison, avec l'Esprit de Dieu qui voudrait agir, la grâce de Dieu ? Comprenez, mes frères et sœurs, je ne juge pas, mais pas du tout, parce que c'est très très difficile quand il y a ça. Et c'est tellement beau quand il y a l'Esprit de Dieu qui anime, quand il y a le respect, l'amour, l'harmonie. C'est tellement beau. Alors je me dis non, on veut progresser, on veut aller de l'avant, voilà, révisons déjà ça dans les maisons. Laissons le Saint-Esprit sonder nos cœurs, que l'orgueil tombe. Oui, mais c'est comme ça, parce qu'elle, elle est comme ça, lui, il est comme ça, donc c'est comme ça. Et ça, c'est quoi ça ? Ça veut dire, le diable, tu as raison, tu as gagné. Alors que Dieu nous dit qu'il y a une relation, mais tellement belle que l'apôtre Paul, inspiré, compare à Jésus et son Église. Mais c'est beau, ça. C'est beau. Je referme la parenthèse. Donc, rempli du Saint-Esprit, il y a toutes ces relations. Vous lisez jusqu'au verset 10, là, de tout le chapitre, la fin du chapitre 5 et le chapitre 6. Alors, il faut que je me... C'est cette progression dans notre vie, cette progression qui, j'aime ce verset où il est dit dans un psaume, il exerce mes mains au combat. On ne devient pas un combattant du jour au lendemain. Ça ne nous tombe pas dessus, mais c'est une progression. Marcher avec Dieu, vivre par l'Esprit, c'est une progression qui nous amène eh bien, à entrer dans une dimension qui nous échappe. On n'a pas l'habitude. Pour nous, c'est on prie par l'intelligence. Mais la Bible dit aussi, je prierai par l'intelligence, mais je prierai aussi par l'esprit. C'est l'apôtre Paul. Et une question a été posée pendant les questions sur le combat de l'esprit. Et notre frère parlait de cet esprit qui intercède. Et nous l'avons dans Romains au chapitre 8, à partir du verset 26. Il est dit, quand nous ne savons pas quoi demander au Seigneur, parce qu'on demande beaucoup de choses, mais des fois on demande des choses qui ne vont pas. Et il y a des fois on ne sait pas. Eh bien, l'esprit intercède par des soupirs inexprimables, car il connaît quelle est la pensée de Dieu, et il intercède. Ça, c'est beau. Et c'est Romains 8, 26 et 27, vous le lirez. Donc, la prière par l'esprit, le combat de l'esprit, c'est entrer dans cette dimension. Sinon, c'est une religion, frères et sœurs, je le dis pour moi, je vous le dis pour vous, c'est une religion. Sinon, si nous prions par l'intelligence, juste comme ça, des mots qui viennent, on lit, on vient, on revient, ça ne change pas dans notre vie, on revient 10 ans après, il est le même, c'est pas ça la vie chrétienne. En tous les cas, Jésus n'est pas mort pour ça, il n'est pas ressuscité pour ça. Il est ressuscité pour faire de chacun de nous des disciples. Et il y a une maturité, remportant des victoires, les couples restaurés, les enfants se tournant vers le Seigneur, étant sauvés. Pourquoi ? Parce que nous avons combattu le bon combat de la foi, Jésus a exaucé, des murailles se sont tombées, des portes ont été ouvertes. Voilà la vie chrétienne, il y a des pleurs, il y a des larmes, il y a des cris de joie, il y a des victoires. Parfois, eh bien, on pleure devant le Seigneur, mais on intercède, et le Seigneur nous fortifie, il exerce nos mains au combat, et il y a des victoires qui sont emportées. Amen, c'est ça la vie chrétienne. On s'habitue facilement à une religion. Hein. Ça craint pas si je dis ça. On s'habitue. Pourquoi ? Parce que l'homme, il est profondément religieux. Et naturellement, on est profondément religieux. Et on aime bien les habitudes, et voilà, c'est comme ça, on vient, on prie, et puis rien ne change. Mais à un moment donné, on se dit, Seigneur, je vais me placer devant toi. Jusqu'à ce que ça change. Et là, même si on n'a pas la force, qui a envie de passer du temps ? On ne sait même pas combien de temps. Le Seigneur ne nous dit pas, tu dois passer 3 heures. Non, on ne sait pas. Mais qui, naturellement, spontanément, va aller dire, je bloque tout, je me place devant Dieu, et jusqu'à ce qu'il exauce, je vais me tenir devant lui. Naturellement, on ne peut pas ça. Mais l'Esprit de Dieu peut nous y amener. Peut nous y amener. Et dire, ça y est. Quelque chose s'est passé. Oui, ça se passe aussi dans les réunions, mais je crois que ce qui se passe le plus profondément après les réunions, après avoir entendu, c'est dans notre contact seul avec Dieu. Je crois que c'est là qu'il va se passer les choses en profondeur. Parce que là, on n'est pas devant les autres, on est seul avec Dieu. Que le Seigneur nous aide, donc je prierai par l'esprit, je prierai aussi par l'intelligence. C'est un aspect du combat, hein, nous l'avons dit, le frère l'a dit, c'est un aspect, mais il y a encore d'autres choses. Alors, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Je crois que ce n'est pas au hasard si ça commence par là, la panoplie, les armes complètes. Ça commence par la vérité pour ceinture. Alors, j'avais jamais trop fait attention, mais il parle de la vérité. Et si je vous dis, c'est quoi la vérité ? C'est la parole de Dieu. Et vous avez vu qu'il reparle alors de la parole de Dieu. Dans le verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Il parle de la parole de Dieu. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Les reins, c'est ceux qui... Ça supporte tout, hein. C'est l'ossature, c'est ce qui va tenir quelque part le corps, hein. C'est les reins, la vérité pour ceinture. Bien sûr, à l'époque, ça tenait ces robes qui étaient flottantes pour les hommes, et la ceinture tenait tout cela afin qu'ils puissent courir et combattre. Mais la vérité pour ceinture. La vérité qui soutient tout, la vérité qui est comme ce fondement. Et Paul en parle dans les Éphésiens au chapitre 2 et verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Toute ma vie, ma foi, ma vie chrétienne, tout cela, eh bien, reposera sur la vérité. Non pas sur ma vérité, mais sur la vérité. C'est pas la mienne, hein, c'est la vérité. Alors, la vérité, moi je crois que c'est la vérité sur Dieu, la vérité sur Jésus, la vérité sur moi, sur l'homme, la vérité sur le péché, la vérité. Voilà, que ce soit clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas de ma pensée, moi je pense ça parce que voilà c'est écrit, mais c'est pas d'ambiguïté sur le péché. Je ne peux pas adapter la vérité par rapport à ma vie, à mes circonstances. Si la ceinture est trop lâche, elle ne retiendra rien. Mais ça, c'est non négociable. La vérité qui doit supporter toute chose. La vérité sur Dieu, qui est Dieu, véritablement, qui est Jésus, l'œuvre de la croix, le péché, le salut, la sanctification, la délivrance. Il faut que marcher dans la vérité, il faut que ça repose sur cela. Donc ça repose sur une connaissance de Dieu, une connaissance de Christ, et nous l'avons vu pendant quelques cultes, donc la connaissance de Dieu, sa souveraineté, nous avons vu, etc., mais il y a tellement d'aspects. Et ça doit reposer là-dessus, sur la vérité. Dans Ésaïe, au chapitre 11, et au verset 4, il est dit, c'est prophétique, bien sûr, ça nous parle du règne messianique, du règne des mille ans. Verset 4, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Dans Exode, au chapitre 12, donc nous voyons la fidélité, la droiture marcher par rapport à ce que nous avons comme révélation de Dieu dans sa parole, révélation de Christ, marcher dans ces voies-là. Là, on ne parle pas encore de la parole précise, mais marcher dans cette vérité-là. Dans Exode chapitre 12, verset 11, il est dit « Quand vous le mangerez, l'agneau, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main, et vous le mangerez à la hâte. » C'est la Pâque de l'Éternel. Alors ça nous dit quoi cela? Ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'être prêt pour le combat. Ça nous parle d'avoir l'état d'esprit, d'être prêt, d'être, comment dire, comme cette sentinelle qui est sur la tour. Voilà, je me tenais, Habacuc dira au chapitre 2, je me tenais sur la tour et je me tenais à mon poste. Et j'attendais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Vous avez ce passage en tête. Voilà, nous sommes prêts pour le combat. Et comment être... Mais nous nous sommes préparés. Tous les jours qui passent, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années qui sont passées, qu'est-ce que nous avons fait avec tout ce que Dieu a mis à notre disposition? Qu'est-ce que nous en avons fait? Voilà, c'est la réponse, elle est dans le cœur de chacun, et dans le mien, je me dis, Seigneur, j'ai pas assez. J'ai pas assez. C'est sûr. On a compris quelque chose et tout ça, mais je me suis pas assez. J'ai besoin, Seigneur, de me tenir devant toi. De me tenir davantage, davantage et davantage devant toi. L'apôtre Paul, l'apôtre Jean, pardon, dira... Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. C'est 3 Jean, verset 4. Il y a de l'assurance dans nos vies que de marcher dans l'esprit de vérité comme nous l'avons entendu, et dans la même direction que le Seigneur, les mêmes mobiles, les sentiments, tout pour la gloire de Dieu. N'oublions jamais que Paul dira dans 2 Corinthiens 13, 8, « Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. » Alors je crois que c'est tellement important de marcher non pas par rapport à ce que nous ressentons, même ce que nous voyons chez les autres, il nous faut marcher nous-mêmes avec Dieu. Si je vois mon frère qui a une difficulté, je vais prier. Je vais prier pour lui. Il y a des choses, on ne peut pas, quand c'est la main de l'homme, on va dire, oui, tu ne devrais pas, tu veux faire ça, tu devrais... Parlons peu aux hommes, mais parlons beaucoup à Dieu des hommes. Il y a des choses, c'est que l'esprit qui peut convaincre. Il n'y a que l'esprit qui peut convaincre. Il y a des choses, des conseils, on peut les donner, mais il y a des choses, après c'est charnel, voilà, ça va mettre du trouble. Prions les uns pour les autres. Soutenons-nous les uns les autres. L'assurance, la puissance découle de la vérité. Jésus dira dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Il y a une puissance extraordinaire que communique la vérité. Nous ne pouvons pas être avec assurance dans ce combat si la vérité n'est pas à nos reins, si elle ne fait pas partie intégrante de notre vie, si nous ne marchons pas pleinement dans la direction du Seigneur par l'esprit de vérité. Mais quelle assurance nous aurons dans les combats contre ces ennemis? Et la plupart du temps, eh bien, on ne mène pas ce combat. Et Dieu nous garde, hein. Heureusement, dans sa grâce, Dieu nous garde debout. Moi, je bénis Dieu parce que le diable, en un instant, il nous ruinerait, là. C'est même pas la peine. Hein. Mais Jésus nous demande d'aller plus loin. Et les temps dans lesquels nous vivons sont des temps particuliers. Parce qu'il y a quand même l'apostasie qui prend place depuis déjà longtemps. Et... Alors, je ne sais pas si j'ai noté ça. Oui, dans 2 Timothée, voilà, on va bientôt terminer, mais dans 2 Timothée, au chapitre 3, vous voyez, quand il parle des derniers jours, on ne va pas tout lire, les hommes seront irreligieux, etc., insensibles, au verset 6, 2 Timothée 3, « Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. » Il s'oppose à la vérité. Et nous avons un combat mené pour la vérité. C'est un grand combat que Christ anime pleinement nos cœurs. La vérité, souvenez-vous, la vérité pour ceinture. Que dans notre vie, ce soit l'esprit de vérité qui nous conduise. Que ce ne soit pas nos idées propres, nos conceptions, qu'on ne marche pas comme le monde. Mais que vraiment cette vérité, elle soit le fondement de notre vie. Marche dans le sentier du Seigneur, on marche dans l'état d'esprit de Jésus, ses sentiments, on marche là-dedans. Jésus, eh bien, il marchait, il y avait un amour extraordinaire, mais pas négociable avec des choses de ténèbres, du péché. Non, il n'y avait jamais de compromis, jamais d'arrangement, jamais d'amalgame, jamais. C'était toujours clair. Toujours, voilà, tu es pécheur, tu as besoin de te convertir. Voilà, c'était, voilà, va et ne pêche plus. Il a délivré cette pauvre femme et lui dit, va et ne pêche plus. Ne continue pas à vivre comme tu as vécu maintenant. Tu as la possibilité, tu as l'autorité même, tu as la puissance de marcher en nouveauté de vie. Mais c'est extraordinaire. Voilà ce que le Seigneur propose, je termine là, mais ce que le Seigneur propose à nos jeunes gens, et ceux moins jeunes, ceux qui ne sont pas encore engagés avec le Seigneur, il propose en disant « va et ne pêche plus ». Ça veut dire « va, tu n'es plus obligé de pécher, maintenant tu as une puissance pour ne plus pécher ». C'est ça la conversion. Sinon, voilà, on peut adhérer, continuer à mener une vie comme ça où il n'y a pas de victoire, pas de... Non, on est pris. Mais que Dieu nous aide à prendre toutes les armes de Dieu. Et la première, c'est la vérité pour ceinture. Nos reins, il faut qu'il y ait la vérité qui soutienne tout. Que Dieu nous aide. Je vais terminer par la prière. Seigneur, merci. Merci parce que, Seigneur, pas à pas, tu veux nous amener à nous tenir devant toi. Parce que c'est ça en réalité, Seigneur, c'est de nous tenir devant toi. Seigneur, c'est de nous placer à tes pieds. Parce que c'est toi qui nous conduis, c'est toi qui nous conduis dans ce combat, c'est toi qui nous mène, c'est toi qui exerce nos mains au combat, c'est toi qui affermis nos genoux chancelants, c'est toi qui nous communique un esprit de vie. Seigneur, c'est à tes pieds, et à tes pieds seulement que nous recevons de toi. Oui, Seigneur, tu veux nous exercer, comme Paul pouvait dire, je cours, mais pas comme à l'aventure, je combats, mais pas comme battant l'air. Non, Seigneur, oui, tu veux nous conduire, combattre et être efficace. Voir des choses se passer dans nos vies, dans nos familles. Seigneur, voir des situations se débloquer, voir des portes qui s'ouvrent, des verrous qui sautent, des murailles franchies. Seigneur, nous voulons voir cela, des esprits délivrés, de pensées négatives, pensées de mort. Seigneur, tu es venu pour libérer les captifs. Seigneur, nous voulons voir ces choses. Aide-nous, emmène-nous jour après jour à comprendre, réaliser et à combattre le bon combat de la foi. Tu ne nous attends pas pendant 50 ans, Seigneur, mais c'est quand nous sommes faibles et que nous exerçons la foi que nous pouvons voir la puissance de Dieu se manifester. Seigneur, bénis mes frères et sœurs, bénis les couples. Je te prie dans le nom de Jésus. Tu vois, Seigneur, je te prie de pouvoir avoir accès dans les maisons, que la grâce atteigne chacun de nos couples de l'Assemblée et que la grâce anime chacun. Et que nous puissions voir la gloire de Dieu, que nous entendions des témoignages. Oui, Dieu a restauré notre couple. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus, que nous voyons des enfants, des ados se convertir, se tourner vers toi, accepter Jésus et servir le Maître. Oui, Seigneur, c'est pour nous cela. Aide-nous à user nos genoux, Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.